Les chapitres suivants. Alarmés, périlleuses aventures, retour à Oropesa, défenseur de la chrétienté et le pays natal. Pour reprendre cette place aux Français, Charles Quint lance un appel aux armes dans toute l'Espagne. Oropesa doit fournir une compagnie de fantassins commandée par le bailli Jean Ferru et Navas. Jean, plein d'ardeur, s'enthousiasme pour la défense et le triomphe de l'Espagne. Et il est jeune, sans doute sensible à la gloire militaire. Il s'enrôle sous l'étendard comtal d'Oropesa. Le voici soldat, revêtu du pourpoint de cuir. Il reçoit des armes et participe aux exercices d'entraînement. Il est prêt à croiser le fer avec les envahisseurs, à prouver son courage par des exploits. Mais il est bientôt déçu. Sous les ordres de ses chefs, il doit vivre à la manière de la plupart des troupes de ce temps, c'est-à-dire aux dépens de la population. L'armée dont on redoutait le passage, et plus encore le séjour, assurait alors en majeure partie sa subsistance par des réquisitions, des pillages et des maraudes. Jean désapprouve ces procédés injustes, mais il n'est pas en son pouvoir de s'y opposer. Il n'abandonne pas sa foi, mais néglige ses devoirs religieux et sa vie chrétienne s'attiédit. Cependant, il ne participe ni aux violences, ni à l'immoralité de ses compagnons d'armes. Plus tard, il regrettera amèrement ce relâchement momentané et le réparera avec une générosité admirable. Ces écarts passagers l'aideront à comprendre le malheur de ceux qui tombent dans le péché. Il y aura pour eux une immense compassion et il ne reculera devant aucun sacrifice pour obtenir leur salut. Maintes fois, Jean se distingue par sa vaillance en se jetant dans la mêlée ou en volant au secours de ses compagnons. Mais après la fougue de la lutte, il déplore le massacre qui précède la victoire et s'afflige du sort cruel des morts et des blessés. Deux aventures qui auraient pu tourner très mal lui servent d'avertissement et l'aideront à retrouver pleinement sa foi, ébranlée par les mauvais exemples et les brigandages trop fréquents de la vie des camps. Pendant que le siège de Fontarabie se poursuit, un jour, Jean est résigné par son capitaine pour rapporter du ravitaillement au camp des Espagnols. Il monte alors un cheval récemment pris à l'ennemi. Soudain, l'animal reconnaît un chemin qui mène au cantonnement des Français, ou bien il entend une sonnerie militaire. Brusquement, il se cabre, s'emballe, désarçonne son cavalier et le jette contre des rochers. Jean, terrassé par le choc, reste plusieurs heures inanimé, sanglant. Quand il reprend connaissance, une douleur lancinante le tenaille. Va-t-il succomber à ses blessures? Les adversaires, s'ils le trouvent, vont-ils l'achever? Devant ce double danger, Jean implore avec ferveur la Sainte Vierge. « Secourez-moi, ô Mère très compatissante. Obtenez de votre divin Fils qu'il me délivre du péril où je suis. » À cet instant, il lui semble voir une dame très belle, vêtue comme une bergère. Elle se penche vers lui, touche ses plaies et lui présente de l'eau fraîche qui le désaltère. Puis elle lui dit avec douceur, « Je suis celle que tu as appelée à ton secours. Vois, mon fils, que tu n'es pas en sûreté parmi les dangers qui t'entourent, si tu négliges la prière. Sois-y fidèle désormais. » Jean, ranimé par ce breuvage, consolé par la bonté de la Sainte Vierge, sent ses forces lui revenir. Il se jette à genoux et de tout son cœur, il la remercie. Il est résolu à changer de vie, à aimer le Seigneur par-dessus tout. Il en demande humblement la grâce. La vision a disparu, le laissant transformé. Jean regagne le camp espagnol où il achève sa guérison. Une aventure encore plus dramatique suit ce bref répit. Après les escarmouches qui jalonnent le combat entre Français et Espagnols autour de Fontarabie, ces derniers rapportent parfois un riche butin des domaines avoisinants. Un jour, Jean est chargé par son capitaine de veiller sur un trésor enfermé dans une tente, sous la garde d'une petite escouade que Jean commande. Durant la nuit, on ne sait comment le trésor disparaît. Sans aucune preuve, Jean est accusé du vol. Furieux contre lui, le capitaine refuse de procéder à une enquête et d'écouter ceux qui plaident la cause du jeune soldat. Il le condamne à être pendu sans délai. L'infortuné attend en prison l'exécution de la sentence qui aura lieu à l'aube. On assure que vers minuit, un ami du malheureux détenu tente de le faire évader. Mais Jean refuse cette chance inespérée pour ne pas exposer la sentinelle qui le surveille à subir l'injuste châtiment à sa place. Pendant sa solitude nocturne, il réfléchit et mesure la fragilité de la vie et des biens de la terre. Sincèrement, Jean se repent de ses péchés et il accepte la mort, si Dieu la permet, pour les réparer. Pourtant, il voudrait vivre. Il invoque la Sainte Vierge avec une ardente confiance, sûre qu'une fois encore, elle peut le sauver. Le matin venu, réconforté par la prière, il s'avance d'un pas ferme vers la potence. Une double haie de soldats armés l'escorte. Il ne cesse d'implorer la Sainte Vierge. Ses camarades et ses amis le regardent passer, quelque peu apitoyés. Quand le bourreau lui glisse la corde de chanvre au cou, Jean, dans un suprême élan d'espoir, supplie sa céleste protectrice. « Si vous voulez sauver ma vie, ô mère de grâce, c'est maintenant. » À cet instant, un cavalier rapide arrive, s'arrête, examine la scène et interroge le capitaine. « Que se passe-t-il ? » C'est un officier supérieur, il connaît et apprécie Jean, et le croit incapable de voler. Puisque les preuves à charge contre le jeune soldat font défaut, l'officier blâme la hâte excessive du capitaine et il interdit l'exécution. Jean échappe miraculeusement à la potence, mais doit quitter l'armée. Il s'en réjouit car il est las des horreurs de la guerre et la gloire militaire ne le tente plus. Il remercie le Seigneur et la Sainte Vierge de l'avoir délivré de la mort et il est plus décidé que jamais à consacrer à leur service la vie qu'ils lui ont conservée. Il retourne à Oropesa où François le Mayoral le reçoit à bras ouverts, heureux de voir qu'il a échappé à de si grands périls. Jean reprend le soin des troupeaux de son père adoptif et la gestion de ses biens. Il est son homme de confiance. Après la vie tumultueuse des camps, il retrouve avec bonheur et pour plusieurs années sa vie rude et saine de berger. La solitude des grands espaces, le silence qui lui permet de prier et de méditer. Sa foi se renouvelle, son désir de se donner au Seigneur se précise et s'affermit. François le Mayoral, qui n'a pas perdu de vue son projet, offre de nouveau avec insistance à Jean la main de sa fille. Bien que vigoureux encore, il souhaite l'avoir établi et il voudrait remettre à son fils adoptif la direction de son domaine. Jean souffre de décevoir par un refus celui qu'il vénère comme le meilleur des pères. Et pourtant il en est sûr. Dieu l'appelle à une vocation qui lui sera révélée plus tard. Le jeune homme pense Dieu d'abord. Une circonstance grave lui permet d'échapper aux sollicitations pressantes de François. La situation de la chrétienté s'est fortement assombrie. Rome a été livrée au pillage. La basilique Saint-Pierre a été saccagée, profanée par des troupes de bandits. En Europe centrale, les événements sont plus tragiques encore. Depuis 1522, Soliman II, sultan des Turcs, poursuit son avance victorieuse. En 1526, il envahit la Hongrie, écrase la vaillante armée magyare et assiège Vienne. Cette ville est le dernier rempart de l'Europe contre l'islam et les forces militaires de Soliman II sont très importantes. L'alerte est donnée dans tous les pays chrétiens. Charles Quint, en toute hâte, lève des troupes pour barrer la route à l'envahisseur. Tous les hommes valides sont invités à s'engager dans cette bataille qui doit défendre la liberté de la chrétienté. Jean a renoncé à la carrière militaire, mais le but de cette guerre dépasse les ambitions territoriales des rois. Il n'hésite donc pas à s'enrôler dans l'armée recrutée par le comte d'Oropesa. Quels que soient les risques à courir, il considère que c'est son devoir. François le Mayoral, très ému, le bénit, l'embrasse et lui dit « Jean, si un jour tu te trouves seul au monde, reviens chez nous. Toujours je serai ton père et tu seras mon fils. » Dans ses paroles, il fait passer la profonde affection qui le lie à Jean et que celui-ci lui rend de toute son âme. Inès aussi lui dit adieu, un adieu sans doute définitif. Elle a compris que Jean est appelé par le Seigneur à une vocation qu'elle doit respecter et l'on pense que par la suite Inès s'est elle-même consacrée au service du Seigneur dans la vie religieuse. Jean part. Il est mêlé à des hommes bien divers, castillans, aragonais, catalans, basques, et il en vient des autres pays. Ce sont des artisans, des paysans, des marchands, des étudiants, des nobles. Parmi eux, il y a des chrétiens prêts à sacrifier leur vie et des aventuriers qui cherchent fortune. Le péril commun les rassemble. Tous s'engagent dans la lutte qui est dure. La supériorité numérique de l'armée turque est écrasante, puisque 120 000 musulmans encerclent Vienne, défendus seulement par 17 000 hommes, à défaut des renforts espérés. La petite armée de Charles Quint s'enferme dans la ville assiégée, qui n'a ni bastion solide ni artillerie puissante. En hâte, les défenseurs dressent quelques fortifications et murent les portes de la ville. Ils sont résolus à périr jusqu'au dernier, plutôt que de capituler. 20 assauts musulmans se brisent, impuissants devant l'héroïsme des chrétiens qui les refoulent. Soliman II, dont les troupes se démoralisent, doit s'avouer vaincu. Il fait incendier son camp et se retire. Vienne est délivrée et l'Europe échappe à l'islam. Jean s'est battu comme un lion pour la victoire et pour protéger ses frères d'armes qu'il voyait en danger. Sa tâche remplie et l'armée étant licenciée, il revient en Espagne par l'Atlantique. Il débarque au port de la Corogne en Galice, à 2 jours de marche du célèbre sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle. Il s'y rend en pèlerinage d'action de grâce avec ses camarades survivants des combats, comme lui. Il y demeure 8 jours et prie avant de poursuivre sa vie aventureuse. Ensuite, il désire revoir son pays natal. Il a sans doute fini par retrouver le nom de la petite ville portugaise où il a vécu pendant ses premières années, chez ses parents. Un jour, bouleversé, il franchit la porte de Montemoro Novo. Ses souvenirs d'enfant se réveillent tandis qu'il parcourt les rues autrefois si familières. Dans la rue verte, il revoit la maison de son père. Il entre. Hélas, elle est habitée par des étrangers. Ses parents ont disparu. On ne sait ce qu'ils sont devenus et lui, personne ne le reconnaît. Jean découvre pourtant un vieil oncle. Il apprend par lui une triste nouvelle. Sa mère, déjà malade et terrassée par le chagrin, est morte 3 semaines après son départ. Son père est entré chez les religieux franciscains de Lisbonne, où il a vécu et où il est mort saintement. Jean est accablé. Son oncle le console. « Tu n'étais qu'un jeune enfant. Tu as agi sans aucune mauvaise intention. Tes parents ont souffert, mais Dieu qui a permis cette épreuve leur a donné en échange le bonheur éternel. Tu les retrouveras au ciel. » L'oncle de Jean insiste pour le garder chez lui. Il en fera son fils adoptif, son héritier. Le jeune homme le remercie de sa proposition généreuse. Pourtant, il refuse cette vie qui serait facile et assurée. Puisque ses parents ont quitté la terre, plus rien ne le retient dans son pays natal. Ce qu'il veut, ce qui peut remplir sa vie, c'est répondre à l'appel de Dieu, et c'est aussi réparer les fautes qu'il se reproche. Toujours tourné de préférence vers les grandes choses, il songe à un pèlerinage en Terre Sainte.